Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Ce volume réunit deux grands romans de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, publié en 1831, et Les Travailleurs de la Mer, publié en 1866, durant l'exil de l'écrivain à Guernesey. Le premier fait de Paris médiéval et de sa cathédrale le centre d'un drame où se croisent passion, pouvoir religieux, exclusion et violence sociale. Le second déplace l'action dans les îles anglo-normandes et transforme la mer en force souveraine, face à laquelle un homme solitaire mesure son courage. Malgré leur cadre très différent, les deux textes relèvent pleinement du roman romantique hugolien. Ils associent intrigue tragique, personnage intensément singulier, érudition historique ou technique et description d'une ampleur exceptionnelle. Cette réunion permet de suivre l'évolution de Hugo entre le roman historique et le roman maritime, sans réduire l'un ni l'autre à une simple aventure. Elle met aussi en évidence une même interrogation: comment l'individu vulnérable peut-il trouver une place dans des mondes dominés par des institutions, des préjugés ou des forces naturelles qui le dépassent? Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, deux monuments, la cathédrale et la mer, organisent le destin des personnages. Dans les deux romans, Hugo construit l'action autour d'un milieu qui n'est jamais un simple décor. Notre-Dame de Paris donne à la cathédrale une présence architecturale, historique et symbolique. L'édifice conserve les traces du Moyen-Âge, encadre les mouvements de la foule et rappelle une vision collective du monde que l'imprimerie et les transformations urbaines menacent de remplacer. Il impose aussi ses hauteurs, ses recoins et ses seuils aux personnages. Dans Les Travailleurs de la Mer, cette fonction revient à l'espace maritime de Guernesey, aux récifs, aux marais et aux tempêtes. La mer ne possède pas la stabilité de la pierre, mais elle impose une loi plus immédiate encore, elle rend tout calcul fragile et tout effort précaire. Ce parallèle éclaire la méthode de Hugo. Il matérialise les contraintes morales et historiques dans des formes concrètes, l'architecture dans un cas, le paysage marin dans l'autre. Les héros n'évoluent donc pas dans un univers neutre. Ils doivent lire un espace complexe, s'y déplacer et en subir les effets. La grandeur descriptive des romans sert ainsi l'intrigue. La cathédrale concentre les conflits de Paris, tandis que la mer révèle la limite de la volonté humaine. Deuxièmement, l'exclusion sociale façonne Quasimodo, Esmeralda et Gilliatt. Le volume rapproche trois figures que la société désigne comme étrangères ou inquiétantes. Quasimodo est rejeté en raison de son apparence et de sa condition de sonneur liée à Notre-Dame. Esmeralda subit quant à elle les fantasmes, les accusations et la violence que projette sur elle une société hostile aux personnes perçues comme marginales. Gilliatt, dans Les Travailleurs de la Mer, vit à l'écart de la communauté insulaire et fait l'objet de soupçons nourris par son silence, son indépendance et la réputation étrange de sa maison. Hugo ne présente pas ces exclusions comme de simples péripéties sentimentales. Elle montre comment une collectivité fabrique des coupables ou des êtres à part en interprétant arbitrairement les signes de différence. Les personnages marginalisés ne sont pourtant pas dépourvus de liens ni de générosité. Quasimodo connaît une fidélité et une sensibilité que l'ordre social ne sait pas reconnaître. Gilliatt met ses compétences de marin au service d'un objectif qui dépasse son intérêt matériel. Cette opposition entre jugement public et valeurs réelles donne aux deux romans leur force critique. Hugo ne nie pas la violence ou l'ambivalence de ses personnages, mais il oblige le lecteur à regarder au-delà des réputations, des apparences et des catégories sociales. Troisièmement, la passion amoureuse devient une épreuve tragique plutôt qu'une récompense. Les deux romans mobilisent l'amour comme moteur d'action, mais refusent d'en faire une promesse de résolution heureuse. Dans Notre-Dame de Paris, le désir de Claude Frollo pour Esmeralda se déforme en possession et en persécution. L'amour de Quasimodo, au contraire, s'exprime par la protection et le renoncement, sans pouvoir abolir les rapports de force qui entourent la jeune femme. Le roman oppose ainsi plusieurs manières d'aimer et montre que la passion, lorsqu'elle est séparée du respect de l'autre, devient destructrice. Dans Les Travailleurs de la Mer, l'amour de Gilliatt pour Déruchette donne une direction concrète à son entreprise de sauvetage. Il accepte d'affronter l'épave de la Durande dans l'espoir d'obtenir sa main. Pourtant, l'exploit ne lui garantit pas le bonheur attendu. Hugo transforme donc l'épreuve héroïque en expérience de désillusion et de sacrifice. Cette structure tragique distingue ses romans de l'aventure sentimentale conventionnelle. Les sentiments y révèlent les caractères, mais ne suffisent pas à vaincre les déterminations sociales, les erreurs de jugement ou les circonstances. Le lecteur est conduit à distinguer la grandeur morale d'un geste de son résultat intime. L'accomplissement personnel ne coïncide pas nécessairement avec la possession de l'être aimé. Quatrièmement, Hugo associe savoir historique, précision technique et imagination visionnaire. La densité documentaire des deux romans constitue une part essentielle de leur ambition. Notre-Dame de Paris ne reconstitue pas le Moyen-Âge comme un simple cadre pittoresque. Hugo s'intéresse à l'architecture gothique, à la topographie de Paris, aux institutions religieuses, à la justice et aux pratiques populaires. Ces digressions peuvent interrompre l'élan dramatique. Mais elles donnent à l'intrigue une profondeur historique. Les destins individuels sont pris dans une civilisation en transformation. Les travailleurs de la mer procèdent autrement, avec un vocabulaire maritime abondant, une attention aux manœuvres, aux courants, aux récifs et à la mécanique du navire à vapeur. Le sauvetage de la machine de la Durande repose sur des obstacles matériels précis, ce qui donne du poids à l'effort de Gilliatt. Toutefois, Hugo ne se limite jamais au réalisme technique. Les profondeurs, la tempête et la pieuvre prennent une puissance presque fantastique, comme si la nature rendait visibles les peurs humaines. Cette alliance entre connaissance et amplification poétique explique l'originalité du diptyque. L'érudition n'y sert pas à démontrer un savoir extérieur au récit. Elle transforme les lieux en mondes épais, difficiles à maîtriser, où l'imagination élargit les données du réel. En dernier lieu, du Paris médiéval à Guernesey. Le progrès apparaît comme une force ambiguë, réunie dans un même livre. Les deux romans permettent de mesurer la continuité de la réflexion hugolienne sur les changements de civilisation. Dans Notre-Dame de Paris, la célèbre opposition entre l'édifice et le livre imprimé exprime la crainte qu'un nouveau moyen de transmission remplace l'architecture comme langage collectif. Hugo ne condamne pas simplement l'imprimerie. Il observe qu'une invention modifie la manière dont les sociétés conservent, diffusent et organisent leurs idées. La cathédrale devient alors le signe d'un ordre ancien, admirable mais déjà menacé. Dans Les Travailleurs de la mer, la Durande incarne une autre innovation, le bateau à vapeur qui doit relier les îles et le continent. Sa machine représente la capacité humaine à vaincre les distances, mais son naufrage rappelle que la technique ne supprime ni le danger, ni la dépendance envers les éléments. Gilliatt ne triomphe pas de la mer par une force abstraite, il doit mobiliser expérience, patience et inventivité pour sauver une machine que la nature a immobilisée. Hugo évite ainsi le culte naïf du progrès. Les techniques élargissent l'action humaine, mais elles déplacent aussi les risques et bouleversent les communautés. Cette réflexion relie le roman historique au roman maritime et donne au volume une portée plus large que ses seules intrigues. En conclusion, ce recueil conviendra particulièrement aux lecteurs qui souhaitent aborder Hugo autrement que par Les Misérables, ainsi qu'aux amateurs de romans historiques, de tragédies romantiques et de littérature maritime. Notre-Dame de Paris offre une immersion exigeante dans le Paris de la fin du Moyen-Âge, où l'architecture, la foule et les institutions déterminent les destins. Les Travailleurs de la mer proposent une expérience différente, plus resserrée autour d'un combat contre l'océan, la matière et l'isolement. Les lire ensemble permet de comprendre que Hugo ne sépare pas l'aventure de la réflexion une poursuite dans les rues de Paris ou le démontage d'une machine sur une épave de Vienne. Des moyens d'interroger le jugement collectif, le pouvoir, la technique et le sacrifice. Le bénéfice intellectuel du volume tient aussi à la variété de ses écritures. Le lecteur rencontre une langue capable d'être historique, architecturale, maritime, dramatique et visionnaire, parfois abondante mais rarement gratuite. Par rapport à d'autres romans romantiques, ses œuvres se distinguent par l'ampleur accordée au lieu. La cathédrale et la mer n'accompagnent pas les personnages, elles agissent sur eux et donnent une forme concrète au conflit. Cette édition est donc particulièrement recommandée à qui accepte les digressions et la richesse descriptive en échange d'une lecture qui unit intensité narrative, observation sociale et imagination poétique. Si vous souhaitez soutenir Victor Hugo, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.